Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès.
Bonjour Jean-Baptiste Bergès.
Bonjour Benjamin.
On ne peut pas dire que votre grand témoin fait la pluie et le beau temps, mais elle en parle bien.
C'est ça, Catherine Laborde, que vous connaissez tous, puisqu'elle officie depuis de nombreuses années sur TF1. Aujourd'hui, elle est à mes côtés sur Vivre FM. Elle va nous présenter son dernier roman. Il s'intitule Les chagrins ont la vie dure. Un roman, mais où elle parle beaucoup d'elle. Et elle parle notamment des douleurs du passé qui ressurgissent et qui nous handicapent tous. Et dans cette émission, forte en émotion, elle va aussi nous parler de la maladie d'Alzheimer qui touche 850 000 Français. Dont sa maman était atteinte et c'est une maladie qui fait souffrir beaucoup beaucoup les proches.
Place à votre grand témoin dans Vivre FM, c'est vous jusqu'à 13h.
Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Catherine Laborde, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Vivre FM. Ravi de passer cette heure en votre compagnie. Catherine Laborde, on ne vous présente plus. Présentatrice météo sur TF1 depuis 1988, mais aussi comédienne. Vous serez d'ailleurs au théâtre très bientôt à Paris, au théâtre Ranelagh, c'est ça ?
Oui.
Dans un tout nouveau spectacle, Il était une fable. Qu'est-ce qu'il aura de différent de votre ancien spectacle ? Parce qu'on vous a déjà vu sur scène dans un autre spectacle qui était Avec le temps.
Oui, Avec le temps, c'était un seul en scène, et puis c'était un spectacle qui était écrit exprès pour moi par Guy Carlier et François Rollin. C'était les aventures d'une présentatrice météo qui travaillait à TF1. Voilà. On pouvait facilement me reconnaître. Mais là, c'est tout à fait différent. Là, on prend les fables de La Fontaine. On dit toutes les fables de La Fontaine. Enfin, on ne dit pas l'ensemble des fables parce qu'il y en a près de 400, mais quand on choisit une fable, on la dit en entier, et c'est La Fontaine, rien que La Fontaine. Sauf qu'il y a une mise en scène. La mise en scène, elle est de Philippe Lefebvre, et moi, j'interprète. Et puis Raphaël Bancou invente la musique qui va avec chaque fable. Chaque fable est un univers complètement différent. Et chaque fois, la mise en scène est complètement opposée, propose des variations sur les fables de La Fontaine, mais toujours en gardant le texte et tout le texte.
Donc au Théâtre Ranelagh à Paris très bientôt, au Festival d'Avignon cet été. Ça oui. Semble vous donner le sourire, cette nouvelle aventure. Ça se rapproche un petit peu de ce que vous aviez envie de faire enfant, de vos rêves d'enfant ? Pour monter sur scène.
À vrai dire, mon rêve, c'était d'être comédienne. Je suis montée à Paris par passion pour cet art, quoi. Et puis, la vie a fait que j'ai fait davantage de météo que de spectacle. Mais bon, maintenant que les enfants ont quitté la maison, que j'ai un peu plus de temps, voilà, j'ai eu l'occasion de jouer l'an dernier le spectacle, enfin, le seul en scène que m'avaient écrit Carlier et Rollin. Et là, je suis trop contente de jouer les fables de La Fontaine. Mais je dois dire que la barre est placée très, très haut, parce que La Fontaine est un auteur extrêmement exigeant, et qu'après tout, il n'a pas écrit pour le théâtre, il a écrit des fables pour être qui sont lues, mais pas forcément qu'on connaît par cœur et qu'on joue comme on jouerait un texte théâtral. Et la difficulté repose là aussi.
Alors on en parlera un peu plus en détail dans la deuxième partie de cette émission, donc comédienne, présentatrice météo et puis aussi écrivaine. Aujourd'hui, vous venez nous présenter votre dernier livre, le sixième. Celui-ci est un roman qui s'intitule « Les chagrins ont la vie dure ». C'est publié chez Flammarion. Une merveilleuse histoire, Catherine, une histoire assez cocasse. L'histoire d'une femme qui rencontre un petit garçon d'une dizaine d'années dans un train. Tous les deux sont en voyage pour Bordeaux. Lui est en fugue à la recherche d'un père qu'il ne connaît quasiment pas. La femme à ses côtés sera aux funérailles de son amour de jeunesse. Le petit garçon est à la recherche de son futur et la femme à la recherche de son passé. Et il va y avoir de nombreux rebondissements. En tout cas, ils se rencontrent au bon moment. C'est ça,
exactement,
Catherine.
Exactement. Oui, c'est ce couple improbable, un petit garçon et une dame mûre. Et l'un va protéger l'autre et pas forcément dans le sens qu'on attend. Et ils vont vivre des aventures qui ne sont pas forcément non plus celles qu'ils attendaient. Mais ils vont former un vrai couple. C'est-à-dire qu'ils vont se protéger l'un l'autre et ils vont avancer ensemble vers un futur qu'ils n'imaginaient pas. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à développer ce personnage du petit garçon parce que j'étais sûre de vouloir faire un livre sur mon enfance. Je suis née à Bordeaux, j'ai passé les 20 premières années de ma vie. Et je voulais aussi rendre hommage à Claude qui a été mon premier amour et qui, donc je raconte les funérailles imaginaires au début du livre. Et voilà, j'étais sûre que je voulais écrire sur ça, mais en même temps, j'avais peur de me laisser engloutir par une sorte de nostalgie du passé et de l'enfance. C'est pour ça que j'ai créé ce personnage de Paul qui tire vers le présent, qui tire vers le futur et avec une énergie que probablement la femme n'a pas. Et une telle énergie même qui m'a fait écrire des choses que je ne m'attendais pas du tout à écrire. Et il a fait dévier le roman par moment, là où je ne l'attendais pas moi-même. Et voilà, et ça s'est construit comme ça, petit à petit, avec ces flâneries dans Bordeaux, comme j'ai pu flâner avec les mots qui arrivaient.
Vous écrivez, c'est un hasard merveilleux que nous soyons rencontrés. Ni l'enfant ni moi n'aurions pu affronter seuls, isolés ce voyage à Bordeaux. Et tant que nous serons dans cette ville, tant que nous ne nous serons pas réconciliés avec nous-mêmes, nous serons lui et moi tenus à ce pacte. Ils ont, les deux personnages scellent un réel pacte et doivent s'aider mutuellement, c'est ça?
Oui, mais ils ne le reconnaissent pas vraiment. Ils sont toujours en train de dire à l'autre qu'ils les encombrent, qu'ils ont autre chose à faire. Elle cherche le funérarium de Bordeaux. Lui, il cherche le lycée où probablement est inscrite sa demi-sœur, qui doit être une grande et belle jeune fille. Et donc, ils ont chacun des intérêts extrêmement différents, même divergents, mais ils sont obligés de rester l'un avec l'autre. Le petit garçon, il ne peut pas se promener tout seul dans Bordeaux comme ça. C'est elle, d'ailleurs, par hasard, qui, parce que ce petit garçon était dans le même compartiment qu'elle, a payé son billet pour pas qu'il se retrouve comme ça entre les mains des contrôleurs. Et puis, du coup, il reste accroché à elle parce qu'il a besoin d'elle pour circuler dans la ville.
Ça donne même des situations assez cocasses. Est-ce qu'elle, elle ne se demande pas par moment, qu'est-ce qu'elle fait avec ce petit garçon dans les pattes, et si elle frôle pas l'illégalité presque?
Mais elle a tellement besoin d'être protégée de ce passé dont elle a peur qu'il l'engloutisse, qu'elle utilise sans se rendre compte, mais elle utilise quand même ce petit garçon pour quand même prendre un peu de distance par rapport à ses souvenirs qui, comme ça, tout d'un coup, remontent à la surface et l'envahissent. Elle n'était pas retournée à Bordeaux depuis 30 ans, et donc... je veux dire que Bordeaux est une ville très, très puissante, quoi. Et revenir à Bordeaux après 20-30 ans d'absence, ça peut être très lourd. Et le petit garçon la sauve de cette lourdeur.
Et alors, on a beaucoup parlé de la femme. Et le petit garçon, lui, il est dans quel état d'esprit? Qu'est-ce qu'il fait dans ce train? Et il est à la recherche de quoi?
Lui, il est à la recherche de son père. Il vit seul avec sa mère. Alors, il se rappelle très, très vaguement que quand il était petit, son père venait le voir. Mais bon, il a 10 ans, donc ça fait 5 ou 6 ans que le père a disparu. Et donc, il va à la recherche de son père. Et puis, sur Facebook, il s'est rendu compte aussi qu'il avait une sorte de demi-sœur, plus âgée que lui, et qui vivait avec leur père. Et voilà, il part à la recherche de son père. Il fait une fugue, hein. Il devait partir avec son école au bord de la mer pour une école de mer. Et puis, les deux trains partent à peu près au même moment de la gare. Et avec un copain, il a monté ça. Donc, il part à Bordeaux et personne ne sait qu'il a fait une fugue. Ni son école, puisqu'il a écrit un mot comme si c'était sa mère pour dire qu'il ne viendrait pas à l'école de mer. Ni sa mère, qui est sage-femme et qui travaille jour et nuit dans un hôpital. Donc, qui pense qu'il est chez la voisine et que la voisine s'occupe de lui. Ni la voisine, qui de toute façon n'a pas vu la mère. Donc, voilà, il est en fugue et personne ne le sait, sauf cette femme qu'il rencontre dans le train.
Voilà, ils vont apprendre à se connaître et ils vont s'aider mutuellement, à se retrouver personnellement. Donc ça s'appelle Les Chagrins ont la vie dure, c'est publié chez Flammarion. Un roman assez autobiographique tout de même, Catherine Laborde. On s'y perd parfois, l'héroïne est présentatrice météo. L'intrigue se déroule à Bordeaux, votre ville de naissance. Difficile de ne pas avoir de points communs. Forcément, pourquoi vous avez choisi le roman? C'est vraiment romancé, ça ne vous est pas arrivé de vous retrouver dans un train avec un petit garçon?
Non, ça ne m'est jamais arrivé.
D'accord.
Et puis, j'aime bien que vous disiez qu'on s'y perd un peu. Justement, j'avais envie que le lecteur s'y perde un peu, comme la narratrice se perd un peu dans ses souvenirs. Et c'était une idée qui me plaisait bien. Et puis, j'avais envie d'évacuer cette question. Alors, c'est vrai tout ce que vous racontez ou pas? Je mets un personnage qui me ressemble, qui est sans doute moi, et puis après, j'invente. Je vais vous dire, même au début du livre, je peux le dire parce que c'est le tout début du livre, mais elle cherche donc le funérarium où est Claude. Et Claude n'a pas été enterré à Bordeaux, et ce sont donc des funérailles imaginaires. Et de même que j'ai inventé aussi le funérarium, comme le jardin des funérariums serait les restes d'un ancien jardin botanique édifié là, à côté d'une chartreuse ou d'une petite folie bordelaise. En fait, c'est pas vrai du tout, ou c'est peut-être vrai, mais je n'en sais rien, je ne connais pas le funérarium de Bordeaux. Donc c'est cette liberté que donne le roman, je m'en suis servie et je m'en suis amusée.
Alors, je suppose que vous avez quand même des points communs avec la narratrice de votre livre. Elle dit d'elle-même qu'elle est une sempiternelle effacée, qu'elle préfère la discrétion, le silence et même l'indifférence dans toutes les situations. Est-ce que Catherine Laborde est timide aussi dans la vie?
Oui, je suis timide et je trouve qu'à mon âge, c'est vraiment grotesque. Autant on peut être timide à 18 ans, mais passer la soixantaine, c'est un peu ridicule. Mais bon, je suis timide, je mourrai timide.
Pourtant, vous avez beaucoup écrit sur votre vie, sur votre vie intime aussi. L'écriture, ça vient d'où? C'est un besoin, une nécessité, une thérapie?
On croit souvent que c'est une thérapie, mais non, les thérapies sont des thérapies. Moi, j'ai fait 15 ans d'analyse, c'était une thérapie, c'est vrai. Mais c'est pas ça, l'écriture. C'est proche, en effet, mais c'est pas ça. Et l'écriture, c'est l'écriture. C'est vrai que j'écris depuis à peu près l'âge de 10 ans. J'ai écrit à partir du moment où j'ai eu une chambre à moi, où je pouvais m'isoler de mes sœurs, de mes parents, où je tenais le chat enfermé. J'étais un petit peu diabolique avec ce chat, sans doute. Et où je pouvais écrire. Et donc voilà, c'est pas... mais c'est pas une thérapie.
Ça vous apportait quoi, cette écriture adolescente, là? Vous vous souvenez de...
ben, ça m'aidait à dire que j'existais, que j'avais ma place. Hein. Je sais pas, c'est compliqué. Puis c'est formidable de pouvoir écrire. À vrai dire, je voulais être artiste, ça c'était sûr, mais je me sentais pas assez forte, assez intelligente, assez maligne pour écrire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu être comédienne, parce que comédienne, on est créateur au deuxième degré, si j'ose dire. Le premier degré, c'est l'écrivain, c'est Tchekhov, c'est Molière. Donc après, on peut interpréter. Mais je me sentais pas assez forte pour écrire directement. Donc voilà, j'ai voulu être comédienne. Mais en fait, mon truc, c'est que j'ai toujours écrit, quoi. Et ça me plaît bien. Et quand on me dit, mais enfin, vous avez été extrêmement impudique dans le livre que vous avez écrit. Sans doute, mais je vois pas où on peut placer la pudeur dans l'écriture. Ou alors on écrit tous mes bonheurs et la vie est à l'enfeuve tranquille. Mais sinon, non, si on essaye d'être un tout petit peu, comment dire, honnête avec ce qu'on écrit et ce qu'on est, le problème de pudeur, malheureusement, ne se pose pas. Et moi, ce qui m'a le plus étonnée, puisque c'est la première fois que j'écris vraiment un roman, c'est-à-dire avec des situations inventées, des personnages inventés, même en dehors de la narratrice qui n'est pas vraiment inventée, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que j'ai eu l'impression de me livrer beaucoup plus dans ce roman que dans tout ce que j'ai pu écrire sur mes petits livres sur l'amour ou sur la tromperie.
Parce que est-ce que c'était plus facile de se cacher derrière le roman, peut-être?
Oui, je pensais que ça serait plus facile et que j'aurais moins peur de présenter ce livre au regard, au lecteur. Eh ben non, ça m'a fait beaucoup plus peur ce livre-là, la sortie de ce livre-là, que les précédents.
Parce qu'en fait, vous vous livrez plus davantage,
oui,
sur votre enfance, votre
bizarrement,
famille.
Oui.
Vos...
Oui. Bizarrement, à travers la fiction. Bizarrement, enfin, je pense que les grands auteurs le savent beaucoup mieux que moi, mais en effet, oui, je dis plus de je vais chercher au fond de moi plus de choses avec le roman, avec les situations inventées, qu'avec ce que je peux écrire qui a existé.
Du coup, est-ce que vous appréhendez un peu plus, vous appréhendiez un peu plus la sortie de ce livre,
oui,
le retour des lecteurs et des médias aussi?
Oui, oui. Mais c'est peut-être aussi parce que le roman est le genre noble de la littérature, je me dis, je sais pas. Mais j'appréhendais plus, oui, j'appréhendais plus.
Catherine Laborde, reste avec nous dans un instant, la suite de cette émission qui vous est consacrée. Et on parlera encore en détail de cet ouvrage que vous venez nous présenter. Il s'intitule « Les chagrins ont la vie dure ». C'est publié aux éditions Flammarion. Une fabuleuse histoire que je conseille à tous nos auditeurs. A tout de suite sur Vivre FM.
Vous écoutez Le Grand Témoin. Défi du quotidien jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès.
C'est la suite de cette émission avec notre invitée jusqu'à 13h, Catherine Laborde, qui vient nous présenter son tout dernier ouvrage et son premier roman. Du coup, il s'intitule « Les chagrins ont la vie dure ». C'est publié chez Flammarion. Une histoire entre une femme qui rencontre un petit garçon d'une dizaine d'années dans un train. Tous les deux sont en voyage pour Bordeaux. Lui est en fugue à la recherche d'un père qu'il ne connaît quasiment pas. La femme, elle, se rend aux funérailles de son amour de jeunesse. Le petit garçon est à la recherche de son futur et la femme à la recherche de son passé. Et tous deux vont s'aider mutuellement à se réconcilier avec eux-mêmes, même si au départ, ils n'ont pas envie de faire ce voyage ensemble, Catherine.
Ah non, pas du tout. Ils se sont retrouvés par hasard dans le même compartiment. Et puis le contrôleur arrive, il contrôle le billet de la femme. Et puis le regard de la femme croise celui du petit garçon, qui tout d'un coup a l'air affolé. Et elle dit, j'ai oublié de prendre le billet pour l'enfant, dit-elle au contrôleur. Et les voilà embarqués, couple improbable, dans des aventures bordelaises.
Alors cette femme, elle est dans un état d'esprit assez complexe, puisqu'elle retrouve sa ville de naissance. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'elle a pas mis les pieds à Bordeaux. Elle se rend aux funérailles de son premier amour, Claude. Est-ce qu'on peut parler de Claude? Qui est Claude? Qui est ce personnage qui est...
Alors c'est drôle parce que quand j'ai fini le roman, je me suis rendu compte qu'il y avait un seul personnage qui avait gardé son prénom, c'était Claude. En fait, je voulais écrire ce livre aussi pour rendre hommage à Claude. Claude est né à Lannemezan, que vous connaissez, je crois, Jean-Baptiste.
Dans les Pyrénées, oui.
Dans les Pyrénées. Et on s'est rencontrés au conservatoire de Bordeaux, c'était en octobre 68. Et il a été décisif dans la vie, dans ma vie. Je pense que je ne serais pas la même aujourd'hui s'il n'avait pas été là au début de ma vie d'adulte. Il m'a ouvert au bonheur des mots, de la poésie. Rimbaud, je connaissais juste le nom, mais je ne savais même pas qui c'était. Lui, il connaissait déjà par cœur plein de choses. Et il m'a appris, il était fou amoureux de Louis-Ferdinand Céline aussi. Il m'a Artaud, enfin, tous ces gens-là. Et il avait une fascination pour l'écriture, et il écrivait beaucoup. Et puis, malheureusement, l'héroïne est arrivée dans sa vie et petit à petit a démoli son cerveau. C'était un homme exceptionnel. Je pense que c'était quasiment un génie de la langue française. Mais désormais, plus personne ne le sait. Et maintenant que j'ai écrit ce livre, je pourrais essayer d'aller chercher les textes qui restent de lui, qui sont éparpillés ici ou là. Il n'a jamais été édité jusqu'à présent. Et voilà, c'était donc un hommage que je voulais lui rendre. Et en même temps, j'ai bien conscience que dans ce livre, l'hommage n'est que partiel.
Mais vous aviez envie en tout cas de lui rendre hommage, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. C'est lui qui vous a ouvert justement au monde de l'art. Et
oui, c'est ça.
C'est ça qui vous a plu chez lui, théâtrale. Parce que c'est un artiste. En fait.
Oui, c'est un artiste, exactement. C'est un artiste, c'est quelqu'un qui avait un génie artistique authentique et profond, et d'une grande élégance mentale et physique aussi. C'était un homme très beau. Et voilà, sans doute je lui dois encore quelque chose, mais je lui devais au moins ce que j'ai écrit dans ce livre. Oui.
Dans votre livre, la narratrice sent comme une nécessité de réparer l'histoire du petit garçon. Et elle se demande s'il n'y a pas un lien avec Claude, justement, pour qui elle n'a pas réussi peut-être à arranger la situation de Claude. Est-ce qu'on oui. peut y voir un lien entre ce petit garçon et Claude?
Sans doute, oui. Sans doute, la culpabilité est toujours un petit peu là. C'est pas forcément la meilleure conseillère, mais sans doute dans l'écriture, il y a ça qui transparaît. J'ai pas fait exprès. Je vous ai dit, le personnage de Paul m'a échappé très très vite, quoi. Mais devant cette force et cette énergie, j'ai rencontré des petits garçons comme ça. Je trouve qu'on ne peut que s'incliner, quoi. Je trouve que c'est dans le monde occidental où l'on vit. Je trouve que c'est très difficile d'être un petit garçon. Bon, moi, je suis entourée de filles, je suis une famille de filles, j'ai des filles, mes enfants sont des filles. Bon, je trouve que être un petit garçon dans ce monde-là, c'est vraiment très compliqué, parce que on leur demande, contrairement à leur père, de ne plus être misogyne. On leur montre que jouer à la guerre c'est pas forcément des bons jeux, et on leur demande en même temps d'avoir des comportements protecteurs et virils comme dans les anciens temps. Je veux dire, on demande tout et à son contraire aux petits garçons. Et surtout à Paul.
C'est-à-dire qu'ils ont du coup des complications à trouver leur place, même peut-être l'homme aussi en général,
oui.
Face justement à ces femmes qui ont libéré.
Oui, peut-être, hein? Oui. Peut-être c'est ça qui est compliqué. Peut-être que c'était compliqué pour Claude aussi.
En tout cas, en quoi le petit garçon va apporter du réconfort à cette femme, à cette narratrice, tout au long de cette histoire ? Elle qui est à la recherche de son passé, qui revient sur, qui va voir l'appartement où elle a grandi, qui essaie de retrouver un petit peu ses parents comme elle les a connus petites. En quoi le petit garçon va lui faire du bien ?
Il va lui faire du bien parce qu'il va l'empêcher d'être englouti par son passé. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très nostalgique, mais je savais que si je voulais retourner dans mon passé sans m'y faire engloutir, dans l'écriture même du livre, il fallait que je trouve un autre équilibre. Et c'est là que Paul est arrivé. Mais je voulais écrire sur mon enfance parce que, pour rendre hommage à mes parents, parce que j'ai eu une enfance formidable, mes sœurs et moi, on a tout vu, enfin, on sortait de la guerre, les gens avaient beaucoup, beaucoup souffert de cette guerre pour des raisons quelquefois opposées, mais ils avaient tous beaucoup, beaucoup souffert, et mes parents ont beaucoup, beaucoup souffert. Et donc, ils ont offert à leurs filles ce que eux n'avaient pas eu. C'est-à-dire, je sais pas moi, les voyages en Angleterre, les cours de piano, les cours de danse, les cours de diction, maman était couturière, elle ne cousait plus que pour ses filles, mais elle nous faisait des tenues formidables, enfin bon, tout ça, quoi. On avait une grande maison avec un jardin, avec des chats, des tortues, la glycine, enfin c'était une enfance heureuse.
Des beaux souvenirs.
Extrêmement protégée. Et malgré tout, j'ai le souvenir de larmes, de chagrin. Les chagrins ont la vie dure. C'est aussi pour ça que j'ai trouvé ce titre à la fin du livre. Il y avait ce nœud entre chagrin et bonheur de l'enfance, je ne suis pas arrivée à le résoudre. Mais c'est vers ça que j'allais, et c'est vers ça que je voulais écrire mon livre. Et puis Paul est arrivé pour mettre un petit peu de distance dans cette dinguerie un peu nostalgique. Et du coup, il a avec son énergie, son amour, sa vivacité du présent, il entraîne ailleurs.
C'est-à-dire que les souvenirs, même avec le temps, les mauvais souvenirs de l'enfance persistent et...
C'est pas des mauvais souvenirs, c'est la gorge qui se serre et l'envie de pleurer. Vous savez, c'est pas forcément des mauvais souvenirs. Maman, mais on parlera de maman plus tard. Mais je lis en ce moment, j'ai lu au moment où j'écrivais le livre, un livre d'une Israélienne qui s'appelle Shalev, qui a écrit « Ce qui reste de nos vies », où elle s'autorise comme ça à écrire comme si elle était dans la tête et dans l'inconscient de ses personnages. Et en laissant sa plume aller, et en laissant son esprit aller vers l'autre complètement. Et je trouvais qu'elle abordait ainsi une écriture d'une très très grande liberté et en même temps d'une très grande précision. Et elle m'a aidée. Sa lecture m'a beaucoup aidée pour écrire le livre. C'est un écrivain exceptionnel, cette femme.
La narratrice évoque aussi qu'il y a en chacun de nous la nécessité de rendre compte d'autrefois. C'est ce que vous avez eu envie de faire aussi dans ce livre.
Oui, sans doute. Sans doute, il y a ça aussi. Moi, je suis dans l'autre partie de la vie où les choses doivent se faire maintenant, parce que sinon, elles ne se feront plus jamais. Je n'ai pas tout mon temps devant moi. En tout cas, c'est ça que je vis. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de me retourner sur le passé. Mais si vous prenez même des très, très grands auteurs, quand ils retournent vers leur passé, c'est plutôt dans la deuxième partie de leur vie plutôt que dans la première, n'est-ce pas ?
Bien sûr. Pour témoigner et puis passer bien le relais
sûr.
Aussi à,
voilà, c'est ça.
Aux nouvelles générations.
Oui.
Alors, ce petit garçon, Paul, on peut pas, bon, il se passe plein de péripéties. Mmh. Lui, du coup, même question, en quoi la femme d'âge mûr va l'aider à résoudre sa solution ?
C'est-à-dire que lui, il la connaît. C'est la météo, il l'a reconnue.
Il appelle la météo.
Oui, donc elle fait partie de son quotidien, cette femme. Et... Ça, c'est vrai que je me suis servie de mon expérience présentatrice météo. Je sais que je fais partie du quotidien souvent des gens. Et donc, elle le rassure, elle le protège. Et en même temps, elle est familière. Il n'a pas à faire sa connaissance. Il sait qui elle est. Donc, il a une sorte de liberté totale vis-à-vis d'elle, puisqu'il la voit pratiquement tous les soirs à la télé. Puisque comme sa mère est sage-femme, il est souvent tout seul le soir dans sa télé avec son chat que j'ai appelé... comment il s'appelle déjà le chat Coqueluche. Donc il est souvent tout seul avec Coqueluche et puis voilà, il voit la météo à la télé. Donc il y a une sorte comme ça de familiarité immédiate, même quasiment d'intimité immédiate, qui fait qu'il se protège un petit peu parce qu'il a quand même que 10 ans. Il est tout seul dans une ville qu'il connaît pas, il cherche un père qu'il n'est pas sûr de reconnaître et qui vit avec une sœur dont il a vu vaguement la photo dans Facebook. Donc c'est pas mal qu'il y ait une adulte près de lui, quoi.
Forcément. On ne vous en dit pas plus, je vous conseille ce livre « Les chagrins ont la vie dure » de Catherine Laborde, publié aux éditions Flammarion. Un livre, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez beaucoup confié quand même sur votre vie personnelle. Mmh. Vous appréhendiez le retour des lecteurs, de la presse. Est-ce que vous appréhendiez le retour du monde littéraire aussi?
Je l'appréhende toujours.
Votre narratrice ne se sent pas légitime. Est-ce que Catherine Laborde se sent légitime?
Pas vraiment.
Est-ce qu'elle sent un livre?
Pas vraiment, non. Alors je me console en regardant les critiques littéraires des uns et des autres. Par exemple, comment elle s'appelle ? Christine Angot. Christine Angot a droit à quelques lignes assassines dans le Nouvel Obs. Et puis, la même semaine, elle a droit à 4 pages dithyrambiques dans Le Monde. Même chose pour Camille Laurence ou l'inverse. Et moi, je me dis que, décidément, les critiques littéraires ne connaissent rien à la littérature. Ou alors, ils n'écriraient pas des choses aussi dissemblables les unes des autres. Et que donc, comme ils n'y connaissent rien, quand par hasard, ils tombent sur une femme qui écrit son premier roman... En même temps qu'elle présente la météo, la messe est dite. Pas besoin de dire que c'est bon. On sait que c'est pas bon, puisque c'est écrit par une présentatrice météo, et que les présentatrices météo présentatrices météo.
Ça peut être aussi le côté négatif de cette image qui vous colle à la peau, la difficulté de vous faire entendre, ou vous en foutez de toute façon, parce que vous avez quand même votre public, donc les critiques...
Non, je devrais m'en foutre, mais c'est pas si simple que ça. Mais en effet, oui, vous avez raison, je m'en fiche un peu, mais en même temps... Comment dire...
Mais c'est la France, on peut pas faire plusieurs choses en même temps. C'est le même problème pour des animateurs qui peuvent pas faire du cinéma.
Oui.
On nous met dans des cases, c'est ça?
C'est ça, il y a des images toutes faites, quoi. Bon... C'est comme ça. En même temps, grâce à mon métier, j'ai trouvé des éditeurs. Avant Flammarion, c'était Anne Carrière. Enfin, je veux dire, les portes s'ouvrent aussi facilement. Parce que justement, il y a une sorte de familiarité immédiate. Mais après, dans un second temps, il y a en effet une sorte de plafond de verre peut-être.
Lors des salons, vous avez peut-être plus de monde que d'autres personnes qui sont dans des grandes maisons et qui ont de meilleures critiques.
Oui, oui. Et quelquefois, ça me gêne aussi, parce que moi j'ai des passions pour certains auteurs. Je me souviens d'un salon où il y avait Yannick Enel, qui est un auteur que j'admire énormément, qui écrit des choses magnifiques. Et c'est vrai que moi je signais pendant que lui, il était tout seul derrière sa pile de livres. C'est pas juste, c'est pas juste. Non.
En tout cas, nous, on a adoré Catherine Laborde. Ce livre s'intitule « Les chagrins ont la vie dure », c'est publié chez Flammarion. Reste avec nous, Vivre FM, c'est vous, revient juste après la pause.
Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Catherine Laborde, notre invitée, jusqu'à 13h à l'occasion de la sortie de son tout nouveau roman « Les chagrins ont la vie dure », c'est publié chez Flammarion. L'histoire d'une femme qui rencontre un petit garçon d'une dizaine d'années dans un train. Tous les deux sont en voyage pour Bordeaux. Le petit garçon est à la recherche de son futur, la femme est à la recherche de son passé et tous les deux vont s'aider mutuellement à se réconcilier avec eux-mêmes. On suit les péripéties de ces deux personnages, parfois des situations assez cocasses. Est-ce que vous vous êtes marrée, Catherine Laborde, parfois quand vous avez écrit certains passages du livre?
Oui, je me suis bien amusée en écrivant... Ce que disait Paul, je me suis dit au début qu'il faudrait que j'aille parler avec des petits garçons pour voir quel était leur langage, parce que je ne le connais pas. Mes filles sont grandes et leurs copains sont des jeunes adultes, donc bon. Mais bon, d'abord, je ne connaissais pas de gamins de 10 ans autour de moi. Et puis ensuite, comme je connais extrêmement bien Paul, je savais comment il parlait. Alors, ce n'est peut-être pas comme ça que parlent les petits garçons, mais ça m'a beaucoup amusée de jouer avec les mots et les rythmes des phrases, et de mettre ça dans la bouche de Paul. Ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé d'écrire à sa place, d'écrire un discours direct pour lui.
Et notamment lorsqu'il parle de la femme d'âge mûr, de la narratrice, donc, qui est présentatrice météo, vous mettez à sa place et vous essayez de savoir ce qu'il pense de cette femme. C'est assez drôle, ça.
Oui, et moi, ça m'a beaucoup amusée. Ça me faisait rire d'écrire comme ça, quoi. Bon, voilà. Mais je crois que je continuerai, peut-être pas avec un petit garçon, je sais pas, mais de jouer avec les mots comme ça, c'est un grand bonheur, quoi. C'est un grand bonheur parce que c'est léger, et puis parce que dans le discours direct, dès qu'on est sur la mélancolie, sur le monologue, on risque un petit peu de complaisance avec soi-même, alors que quand on fait parler un petit garçon comme on veut. On ne peut pas tomber dans la complaisance parce qu'on est dans le rythme. Et...
Oui, d'ailleurs, vous n'êtes pas tendre avec la narratrice parfois, enfin, du coup, avec vous-même, alors on ne sait plus trop, mais qui sait.
Mais moi, j'ai le droit de ne pas être gentille avec la narratrice, mais pas les autres.
C'est ça. En tout cas, tous les deux vont s'aider, vont réussir à se réconcilier avec eux-mêmes. J'ai pris une citation de votre livre que j'aimerais que vous me commentiez. Je vous cite « Malheur ou bonheur, nous avons le choix souvent bien plus souvent qu'on ne le croit ». Qu'est-ce que veut dire la femme dans ce roman? Est-ce que vous pensez pareil? Est-ce que Catherine Laborde pense pareil? On a le choix.
Oui, je pense pareil. Je pense que le malheur et le chagrin est une sorte de pente naturelle, et que le parier sur le bonheur est beaucoup plus compliqué et demande un moral plus fort, une personnalité plus énergie. Le malheur, c'est le... Je ne parle pas des gens qui ont des accidents terribles, et je ne parle pas de ce malheur-là, je parle d'une sorte de tristesse, de mélancolie sous-jacente. C'est toujours le plus facile. Ou en amour, de croire que forcément ça se termine en chagrin. Non. On peut parier sur le bonheur. Et c'est un choix moral.
Ça, c'est quand même difficile à comprendre. C'est plus facile de parier sur le malheur, c'est ça que vous êtes en train de dire?
Oui, c'est plus facile de parier sur le malheur.
La narratrice dans votre livre, elle a parié sur le bonheur. À la fin, elle sait pourquoi elle a fait ce chemin, ce retour à Bordeaux. Elle trouve des solutions à cette question.
C'est-à-dire que tout d'un coup, son passé à elle s'éloigne et c'est le présent de Paul qui prend toute la place. Et tout d'un coup, elle mesure que c'est le présent qui compte et qu'il y a eu là un choix pour le bonheur, quoi. Même si c'était involontaire.
Alors ce livre, il s'intitule « Les chagrins ont la vie dure » de Catherine Laborde, c'est publié aux éditions Flammarion. Je voudrais lire un petit extrait de ce livre. Lorsque la narratrice parle de ses parents, elle se rend sur les lieux où elle a vécu, elle dit qu'elle a voulu retrouver ses parents lorsqu'elle était petite, les arracher un court instant à la grangue de la vieillesse et de la décrépitude. Je me sers de ce passage pour évoquer la maladie d'Alzheimer. Vous avez participé à la dernière campagne de sensibilisation de l'association France Alzheimer.
Oui.
Votre maman avait cette maladie.
Oui.
À cette occasion, je vous propose juste d'écouter un extrait de la vidéo que vous avez enregistrée. On en parle juste après.
Je m'appelle Lysiane. J'ai 59 ans et je suis une jeune malade d'Alzheimer qui s'assume. Il y a encore quelques années, je travaillais dans un hôtel. Mais un jour, je me suis perdue dans la ville. Le matin, je partais de plus en plus tôt au travail parce que je savais que j'allais me perdre. J'ai aussi commencé à me perdre dans les chambres. Et puis, j'ai fait des bêtises sur la route. Un jour, mon entourage m'a dit « Lysiane, tu deviens dangereuse, il faut consulter. » Cette phrase, je ne l'ai pas oubliée. Car oui, j'oublie beaucoup de choses, surtout du présent. Je perds la notion du temps. La fatigue et la déprime tombent souvent brutalement. Mais je suis consciente de ma maladie. Et surtout, je refuse de me laisser aller.
Voilà un extrait de la dernière campagne de sensibilisation de France Alzheimer à laquelle vous avez participé, Catherine Laborde, dont vous avez entendu, vous lisiez le témoignage d'une personne atteinte de cette maladie. C'était quoi du coup le concept de cette campagne-là? On est venu vous chercher, c'est ça pour
oui,
ce
c'est
projet
ça. Oui, c'est ça. En me demandant de lire un texte qu'ont choisi les gens du comité Alzheimer, et ils m'ont demandé de l'enregistrer, voilà. Et ça a été un moment assez difficile.
Pourquoi?
C'est très très difficile. Là, je lisais la lettre d'une personne qui a cette maladie. Moi, j'ai vécu la maladie du côté des enfants, enfin de ceux qui n'ont pas encore cette maladie, ou qui l'auront jamais, qui sait. Et c'est vraiment très très épouvantable ce qui s'est passé là, ce qui se passe là. Et vous me demandiez tout à l'heure ce qui me faisait écrire. C'est ma mère qui me fait écrire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai commencé Les chagrins ont la vie dure par deux pages qui lui sont consacrées, que j'ai failli enlever à la fin du livre. Puis je me suis dit non, je ne peux pas l'enlever, puisqu'elle est le moteur de mon écriture. Et si j'ai découvert cette auteure israélienne dont je vous parlais tout à l'heure, Shalev, c'est aussi parce qu'elle a dit dans un interview J'ai passé mon enfance à consoler ma mère. Et moi, j'ai passé mon enfance à consoler ma mère. Et c'est ce qui m'a fabriqué. C'est ce qui m'a fait ce que je suis. Et c'est ce qui me fait écrire. Et le nœud de ma vie, il est là, dans cet amour entre elle et moi. Et ce qui est de plus terrible, n'est-ce pas, dans cette maladie, c'est les gens qui vous disent, quand c'est fini, « Oh, ben heureusement que c'est fini, parce que vraiment, c'était trop dur pour vous. » Mais non. C'est ça qui est terrible, c'est que ça finisse, quoi. Moi, je croyais qu'avant que ça finisse, elle aurait un tout petit peu de conscience vers moi, qu'elle me reconnaîtrait un quart de seconde, et puis que ça serait fini. Eh ben non, la conscience ne revient pas. Et c'est épouvantable. Et c'est pour ça que faire le deuil d'une personne qui a eu la maladie d'Alzheimer, pour moi, me semble beaucoup plus douloureux que faire le deuil d'autres gens dont je suis très très proche et qui ont eu des morts difficiles et qui m'ont fait beaucoup de chagrin. Mais la mort de maman à cause de sa maladie a été une chose vraiment terrible. Alors, j'ai écrit avant ce roman, j'ai écrit un livre qui lui est consacré, qui porte son prénom, Maria del Pilar. Et à la fin du livre, j'ai imaginé sa vie pendant la guerre. Alors c'est moitié récit, moitié roman, moitié récit. Et à la fin du livre, j'ai écrit ce moment où on est toutes les deux dans la voiture sous la pluie, et puis j'attends que la pluie s'arrête pour repartir à la maison. Il pleut, il tombe des trompes d'eau, quoi. Et puis à un moment donné, elle se tourne vers moi et puis elle dit que tu es beau. Que tu es beau. Voilà, c'est le dernier souvenir que j'ai de maman présente à moi.
Voilà, ça c'est un extrait qu'on peut retrouver dans votre ouvrage précédent, il y a un peu plus longtemps, c'était Maria del Pilar.
Maria del Pilar, oui.
Del Pilar. Mm. En tout cas, il faut en parler, la maladie d'Alzheimer, dire que 850 000 malades en France, 225 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, et que la maladie progresse, et d'ici seulement 8 ans, notre pays comptera plus d'un million de malades. Donc c'est vraiment...
Pourquoi elle progresse, la maladie? Parce que les gens vivent plus vieux, mais c'est pas une raison suffisante, si?
Non, forcément, vous avez raison. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que vous pourriez donner, par rapport à votre expérience, des conseils à des gens qui vivent ce genre de situation, à l'entourage, justement, parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont des aidants et qui sont confrontés à ce genre de maladie?
Moi, ce que je peux dire, deux choses. C'est d'abord qu'il ne faut pas aller au bout de ses forces. On n'est que des êtres humains. On ne peut pas prendre en charge la maladie, complètement la maladie de quelqu'un. Il faut savoir ne pas s'y noyer.
Il faut se protéger aussi.
Oui. L'autre chose que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un moment dans la maladie d'Alzheimer qui est heureux pour le malade. Où ma mère, elle adorait les couleurs, elle adorait la musique, elle adorait la couleur des vêtements. Dès que quelqu'un riait, elle se précipitait vers cette personne. Vous savez, tout à l'heure, on disait que le malheur est plus facile à adopter que le bonheur, que la volonté de bonheur. Eh bien, dans cette maladie, il y a un moment, en tout cas, ça a été le cas pour maman. Et grâce à mon père, d'ailleurs. Il y a un moment où elle a dépassé la panique de perdre la mémoire, où elle s'est retrouvée sans mémoire, mais heureuse de ce qu'il y avait là, d'un joli regard, d'une beauté, d'une couleur, d'un nuage. Et je lui mettais du vernis à ongles, elle disait « Oh, oh !» Voilà, il y a ces moments-là aussi dans la maladie qui sont des moments bénis.
Merci Catherine Laborde d'être venue témoigner sur l'antenne de Vivre FM. Je rappelle votre livre, il s'intitule Les Chagrins, la vie dure, c'est publié aux éditions Flammarion, votre premier roman. On vous retrouve au théâtre très bientôt, ça oui. Il ne faut pas louper. C'est au théâtre Randag et puis à Avignon tout l'été, dans une pièce qui s'intitule Il était une fable.
Oui, voilà, c'est sur ça. Les fables de La Fontaine.
Sur les fables de La Fontaine et puis on vous retrouve toujours sur TF1, forcément, oui, pour la météo. Merci beaucoup Catherine Laborde d'être venue sur Vivre FM.
Au revoir.
Vivre FM, podcast.